Donc, on va continuer notre méditation sur Romains 12. On a commencé la dernière fois, on va le continuer aujourd'hui. Alors, je vais relire la première partie et ensuite jusqu'à le verset 8. Donc, Romains 12, 1 jusqu'à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Jusqu'à ici, la parole de Dieu. Vous vous rappelez peut-être la dernière fois, on a parlé de 1 jusqu'à 3, verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que ça... OK. Il y a un petit bruit. Ça va? Merci, Patrick. La dernière fois, on a considéré l'éthique générale de Paul dans ce passage. Et une des premières choses que nous avons notées la dernière fois, c'est que sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Christ, sans les compassions de Dieu, nous vivrions seulement encore dans notre ancienne vie de péché, de loi, de mort et sous règne du diable. Hein? Et ça, c'est une vie de mort et de nullité devant le Seigneur. Mais Paul, la Bible ici, proclame que la vie du chrétien est une nouvelle vie. Vous vous rappelez? C'est une vie qui compte pour Dieu. C'est une vie qui vit par la foi dans le nouvel ordre de grâce et d'amour, afin d'y marcher. Hein? Nous sommes toujours en mouvement. Vous vous rappelez la dernière fois? Alors, et il s'agit d'une nouvelle vie en Christ, étant mort à l'ancienne vie, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Romains 6 aussi. Afin de vivre une vie remplie de Dieu, de sa sagesse, de sa justice, de sa sainteté, de son esprit, comme un sacrifice vivant. Vous vous rappelez? Une vie même transfigurée par la grâce et l'amour de Dieu. Et une vie, donc, selon sa volonté, ce qui est agréable, bon et parfait. Donc, on cherche toujours d'être en règle par la grâce de Dieu avec et selon sa volonté. Et donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et en tant qu'introduction, je commence encore avec un point central et un point général. Parce que nous voyons ici dans ce passage que Paul il va un peu plus loin. Cette nouvelle vie par la grâce de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur, est une vie marquée, caractérisée par le fait de vivre comme faisant partie d'un corps vivant, okay? Comme membre de ce corps. Donc, on a lu, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Alors, le premier point ici, et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Étant devenu chrétien par la grâce de Dieu, ce que nous voyons ici, c'est que nous sommes devenus chrétiens par la foi, nous sommes aussi, par la même occasion, il ne faut jamais oublier, devenus un parti de ce corps, de quelque chose plus grand que juste nous-mêmes. C'est pour briser aussi une tendance d'être trop individualiste. Hein? Mon âme avec le Seigneur et le Seigneur avec mon âme. Et ça, c'est bien important. Mais Dieu nous fait naître de nouveau dans et à l'intérieur de son corps pour y vivre ensemble. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sur quoi Paul met l'accent dans les versets qui suivront, c'est que nous sommes en Christ et que par la même occasion, nous faisons partie de son corps, comme l'un de ses membres vivants. Et ça, ce qu'il voulait vraiment souligner et mettre l'emphase là-dessus dans ce passage. Un membre coupé d'un corps, qu'est-ce qui va arriver avec un membre coupé d'un corps? Va mourir. Il faut prendre ça au sérieux. Notre tendance d'être trop individualiste est de donc aussi dire que non, non, ce n'est pas nécessaire qu'on se rencontre ensemble, qu'on fait des choses ensemble, mais non, ce n'est pas ça. Il faut donc se trouver ensemble en tant que corps de Christ. Donc, un membre qui est coupé ne peut être vivant et fonctionner comme un parti du corps. Ainsi donc, être ce qu'il est. Alors, nous voyons ici encore verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. » Ok? Donc, c'est un point comme un point d'introduction pour notre méditation. Donc, chaque chrétien véritable vit cette réalité d'une vie nouvelle, mais cette vie nouvelle est toujours considérée aussi comme une vie communautaire. Donc, de cette manière, Paul continue à parler d'éthique chrétienne dans nos versets aujourd'hui. Dans ces versets, il, pour ainsi dire, décrit cette nouvelle réalité communautaire en Christ et en son corps. Si vous imaginez, donc il commence bien sûr avec les principes généraux qui nous touchent chacun et chacune au niveau personnel. La grâce, l'amour de Dieu, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'il va développer? Notre vie à l'intérieur d'un deuxième cercle. Donc, si tu veux, d'abord la famille, les individus dans la famille, mais le cercle autour de cette famille est donc quoi? Une extension de la famille au niveau spirituel, ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église, n'est-ce pas? Donc le noyau, c'est toujours la famille, et le deuxième cercle autour de ce noyau est l'Église. Et là, donc nous sommes une nouvelle réalité communautaire. Et qu'est-ce qui, après, c'est la société, ok? Donc, c'est même le mouvement de ce texte de Paul. Il commence avec les principes de grâce générale. Ensuite, il va nous parler de l'Église, donc un peu plus large, étendue, les cercles étendus. Et Romains 13, il va nous parler de quoi? Nos responsabilités en tant qu'Église, mais en tant que corps de Christ aussi, dans la société, Romains 13. Donc, c'est vraiment l'image qu'il nous donne. Alors, pour aujourd'hui, regardons cette image que Paul dépeint et écoutons ce qu'il dit, de quelle façon nous devrions comprendre et vivre cette image conformément à sa parole. Alors, parlant de faire partie du corps de Christ, la première chose que Paul dit et décrit, c'est « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir quoi ?» de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. OK? Donc, méditons sur cela, premièrement, pour quelques instants, ce texte-là, c'est même le titre du message pour aujourd'hui. Et ensuite, on va élaborer sur les dons qui sont aussi énumérés dans ce passage. Okay? Donc, en ordre, d'abord, ce passage, par la grâce qui m'a été donnée, etc., etc., et ensuite, les dons que Dieu nous donne aussi, étant donné que nous sommes un corps ensemble. Alors, premier point, l'intention de ce premier verset que nous avons lu aujourd'hui dans Romains, c'est quoi? Il y a une intention, et l'intention, c'est de préserver l'unité du corps. Okay? Il a mis l'emphase sur quoi? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. D'accord? En mettant l'emphase sur le corps. Et qu'est-ce que détruit l'unité du corps du plus? Il y a plein de choses qui peuvent détruire. Une des choses, eh bien, quoi? Une attitude comme l'orgueil, n'est-ce pas? Ou l'arrogance. Okay? L'orgueil et l'arrogance. C'est une des choses qui est toujours en arrière d'une rupture du corps de Christ. En effet, ce que Paul avertit ici, c'est « Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogants. » C'est un sentiment du cœur aussi qui va produire des choses. Alors, dans la langue originale, et je ne dis pas ceci pour être orgueilleux ou arrogant, il faut éviter ça aussi, Paul joue avec l'idée d'être intentionné ou d'être hyper intentionné, ou on peut le traduire aussi d'avoir des prétentions excessives ou déraisonnables. Vraiment, vraiment important de ne pas avoir des prétentions excessives et des prétentions déraisonnables. À peu près la même chose. Et permettez que je le dise encore d'autre façon, Paul dit aux Romains et à nous aujourd'hui que chaque membre s'occupe de son appel à lui ou elle, à l'intérieur du corps du Christ. Pourquoi? Car, mes amis, rien ne détruit davantage l'unité que lorsque les gens commencent à s'occuper de l'appel d'autrui. Est-ce que vous comprenez? En d'autres mots, rien ne détruit plus l'unité que lorsque les gens ne demeurent pas à l'intérieur des limites de leurs propres appels, de leurs propres tâches à l'intérieur du corps de Christ. Et ils commencent à s'occuper de tout et d'avoir une opinion presque sur tout. Est-ce que vous avez entendu cela ou rencontré des gens comme ça? Ils ont une opinion sur tout, mais ils ne font rien. Et ça, c'est donc destructif. Ça ne va pas être bien pour le corps de Christ. Alors, selon aussi les dons que Dieu leur a donnés, mais qui, à la place, il devient donc arrogant et orgueilleux. Ça veut dire que, encore une fois, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Okay? Contre l'arrogance et contre d'être orgueilleux. Ce que Paul est effectivement en train de dire, pour être plus clair encore, sachez quelle est votre place dans le corps de Christ et agissez conformément. Même si les gens qui sont mis dans les places que tu penses, pour l'instant, ils ne doivent pas y être, il faut les reconnaître quand même. Parce que Dieu les a placés dans leur place devant Dieu. Et est-ce que ça va durer jusqu'à la fin ou comment? Non, c'est à Dieu de décider. Mais il faut donc reconnaître ce que Dieu fait à l'intérieur du corps. Donc, nous ou vous voulez toujours être plus que qui vous êtes. Vous désirez toujours plus que ce qui vous a été donné. Vous voulez toujours être plus ou avoir plus que ce que Dieu vous a donné dans sa grâce. Donc, non, certains ont reçu, je ne sais pas combien de 10%. Certains ont reçu 20%, etc., etc. Hein? C'est selon l'ordre de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu pour son corps. C'est important. Mais je vous dis, occupez-vous de votre propre appel et vivez assez modérément, car c'est ainsi que l'unité du corps de Christ sera préservée. C'est seulement à ce moment-là, lorsque chacun connaît sa place, à lui ou à elle, dans le corps vivant, comme dans son membre vivant, et agit conformément. Et donc, à travers cette perspective, donc, il dit revêtir des sentiments modestes. Ou on peut dire, et la seule autre place que Paul utilise cette phrase, revêtir des sentiments modestes, c'est en Tite 2, verset 6, qui dit le suivant, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » C'est la seule autre place que Dieu, à travers Paul, utilise cette phrase dans les Écritures. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés ou sages ou à être sobres. » Même expression. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Peut-être pas, mais vous connaissez des enfants. Et les jeunes, ils pensent toujours d'avoir des capacités de faire et de changer, d'être capable de changer le monde, non? C'est d'un sens, c'est bien sûr aussi positif, parce que parfois, je regarde mes enfants et je dis, beaucoup d'énergie encore, j'en manque pas mal. Mais dans un sens, et ça c'est la tendance des jeunes, de vouloir être plus que qu'ils sont, plus qu'ils sont capables de faire. Non, ils doivent trouver à travers souvent les souffrances et les expériences pas toujours agréables, trouver leur place à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de la société pour qu'ils puissent fonctionner comme il faut. Okay? Est-ce que vous comprenez? Sinon, on veut toujours transgresser les limites que Dieu a mises autour de nous et à l'intérieur de nous. Non, il faut respecter ce que Dieu a nous a donné et comment il nous a créés aussi. Hein? C'est parce qu'il est le créateur mais, et le rédempteur et le sanctificateur. Alors, voilà, première observation. Deuxièmement, Paul rajoute quelque chose de très important. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Okay? Donc, chacun dans sa place, selon les dons que Dieu les a donnés, vous comprenez maintenant, à l'intérieur du corps de Christ, en tant que chrétien, dans une nouvelle réalité, bien sûr, et chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Est-ce que tu suis la logique de ce passage? Bien. Alors, ce qui est très important à observer d'abord, c'est que Paul signale que l'Église, le corps de Christ, n'est pas un club. Club? Un club social dont on peut devenir membre et faire notre part. Parce que qu'est-ce qu'il a mis l'emphase sur selon la mesure de foi. Donc cette réalité dans laquelle on se trouve, c'est une réalité qui vient de la foi, de la grâce de Dieu. L'Église formée de véritables chrétiens est premièrement et avant tout une réalité spirituelle, une nouvelle réalité par la foi. Donc, pas comme le monde et sa façon de s'organiser et sa façon de faire sa politique. Alors, on est dans un... Demain, il y aura l'occasion de voter pour le monde, pour les politiciens. Non? C'est demain, non? Aujourd'hui, nous sommes dans l'Église. C'est la maison de Dieu. C'est un royaume spirituel. Et là, on doit regarder des choses à travers une autre perspective. C'est une perspective à travers la grâce et à travers l'amour de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu. L'Église, donc, ne devrait pas être gérée comme une compagnie, mais selon la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de la parole. Encore, nous avons une tendance d'introduire des méthodes qui viennent d'ailleurs pour mieux gérer les choses à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas biblique. Il faut rester toujours biblique. Il ne faut pas non plus que l'argent règne. J'étais hier dans une ordination et c'était quand même courageux de Frankie Narcisse, donc il y avait un autre qui va prendre sa place, aussi un bon étudiant de la fac, très orgueilleux et arrogant, encore de ma part. Mais il dit, ceux qui sont ici et qui sont à l'intérieur de l'Église, il ne faut pas être menacé par ceux qui donnent l'argent pour une position de pouvoir. Il manque quelque chose à dire, non? Souvent, on ne les critique pas parce que ça va coûter dans la poche. Et donc le pouvoir. Mais en tout cas, c'est le monde qui fonctionne de cette manière. Ce n'est pas l'Église. Donc, c'est la parole qui doit régner au lieu de l'argent. Et c'est la grâce et l'esprit et l'amour qui doit régner au lieu du pouvoir, de vouloir du pouvoir, des positions de pouvoir. Mais c'est dans mon cœur aussi, frères et sœurs. C'est maudite chair qui se révèle toujours aussi à l'intérieur de l'Église. Ça va? Et donc, le critère est bien la parole et l'esprit, pas comme le monde fonctionne selon l'argent et le pouvoir et autre chose. Mais ici, nous lisons une autre chose. Selon la mesure de foi. Parole, foi. Alors, c'est-à-dire selon la mesure de la foi, ou qu'est-ce que ça veut dire? Et plus tard, il va utiliser un autre mot, analogie. OK. C'est quoi analogie? Peut-être on peut réfléchir là-dessus ensemble. Analogie. C'est quoi Anna? Anna, ça veut dire semblable. Originalement, ce n'est pas contre les anabaptistes. Mais les anabaptistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Rebaptiser les gens, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le premier baptême. OK? Donc, anabaptiste, ça veut dire rebaptiser. On peut dire aussi analogie, ça veut dire de refléter ou refaire encore ce que quoi? La parole nous enseigne. Logia, analogia. OK? Refaire ou écouter la parole de Dieu pour répéter la parole de Dieu, pour qu'on vit selon cette parole de Dieu et selon l'Esprit. C'est analogique. Ici, il y a un thermostat, n'est-ce pas? Et donc, on peut comparer le thermostat avec la parole de Dieu. Un thermostat conditionne et détermine quoi dans la chambre? La température. Donc, le thermostat conditionne et détermine la température dans une chambre. Et alors, la température doit être toujours analogue à ce que le thermostat ou le... Est-ce que vous comprenez? La température est toujours analogue au thermostat. Si ce n'est pas le cas, le thermostat est brisé. Alors, ce n'est pas le cas dans notre vie, il y a quelque chose qui manque. Il faut qu'on ait semblable à, qu'on répète la parole de Dieu comme dans une analogie. Une autre image, c'est le métronome. Est-ce que vous connaissez le métronome? Est-ce que c'est ce qu'on appelle métronome? Oui? Esther, elle enseigne la musique. Et il y a toujours tic-toc, tic-toc, tic-toc. Oh non, tu faut le suivre le rythme qui est indiqué par le métronome, n'est-ce pas? Donc, il faut le rythme analogue à et au métronome. Hein? C'est la même idée. Un autre exemple, c'est ADD. C'est not attention deficit disorder. C'est autre chose. Mais ADD, ça veut dire quand on avait fait un CD, les premiers CD étaient ADD. Non? Vous vous rappelez? C'est quoi ADD? Analogue de la voix qui était donc enregistrée. À l'époque, c'était comme ça. On ne pourrions pas refaire les choses. C'est enregistré comme ça, analogue à la voix. Aujourd'hui, nous sommes devenus de plus en plus digital, et donc on peut jouer un peu avec la voix. Même les gens qui n'ont aucune façon peut-être de chanter peuvent produire aujourd'hui des bons CD. C'est l'artificialité de notre époque. Hein? Parce que si tu les regardes sur l'estrade, mais là, c'est un autre problème. Alors, vous comprenez les trois exemples. Alors, l'Église devrait être dirigée et exister précisément de la façon selon la parole de Dieu, analogue à la parole de Dieu, dans l'humilité par la foi en la parole, étant dirigée par l'Esprit et en un mot, aussi par l'amour fraternel. Voilà ce que Paul est en train de dire dans ses premiers versets, aussi avec « selon la mesure de la foi ». Et, OK, on peut aller. La foi, c'est quoi? Pourquoi est-ce que la foi, ici, est mentionnée? Parce que c'est par la foi qu'on fonctionne par rapport à la parole de Dieu et par rapport à l'Esprit de Dieu. Et c'est quoi la foi? Par la foi, on reçoit ce que Dieu veut nous donner. Hein? La foi, c'est un instrument que Dieu nous donne pour qu'on puisse vivre analogue à la parole de Dieu, analogue à l'Esprit, analogue à la volonté de Dieu. Alors, c'est le premier point. Deuxième point, et là, on va rester un peu là-dessus. Donc, il va aller encore plus loin dans notre passage, versets 6 jusqu'à 8, qui est notre deuxième point pour aujourd'hui. L'appel et les dons dans l'Église. Encore les principes de base d'abord, à l'intérieur du corps de Christ, comme un, nous sommes tous un, et maintenant, à l'intérieur de ce corps, Dieu nous donne les grâces, nous donne les dons pour mieux fonctionner. Alors, il dit, « Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Encore une fois, « Mais nous avons des dons différents. » Okay? Un, oui, d'abord et surtout, un en Christ, mais nous avons des dons différents. Donc, il y a une unité et à l'intérieur de cette unité, il y a une diversité des dons. L'unité d'abord, à l'intérieur de cette unité, c'est la diversité. Et encore une fois, mes amis, je ne peux pas mettre suffisamment d'accent là-dessus, puisque c'est la chose sur laquelle Paul met l'accent sur ces versets. Il s'agit de nouvelles réalités, pas comme l'ancienne, comme le monde dans lequel nous sommes nés. Parce que nous sommes confrontés, et nous lisons encore, selon la grâce, il met encore l'emphase sur la grâce qui nous a été accordée. C'est une réalité de la grâce, y compris tous ces différents dons. Donc, nous pouvons répéter ici et ce que nous avons dit. Donc, vous n'êtes pas l'Église à cause de vous-même. OK? C'est la grâce. Vous n'y êtes pas par vous-même, OK? Ou seul, mais vous êtes toujours ensemble. Donc, par la grâce, toujours ensemble, comme membres d'un corps. Et nous devons ajouter maintenant nous pouvons ajouter ou rajouter, vous n'y êtes pas pour vous-même. Donc, de vous-même, par vous-même, juste seul, et ni non plus pour vous-même. Mais les dons sont là pour servir l'un l'autre, pour servir ses membres et avant tout sa tête, Jésus-Christ. Alors, deuxièmement, et nous terminerons avec cela aujourd'hui, que sont donc ces différents dons de Dieu qui doivent être reconnus afin que nous servions l'un l'autre dans la grâce et dans l'amour? Alors, on va encore avoir une image, j'aime les images, parce que les dons ici sont divisés selon encore un ordre, ok? C'était très important, c'est très important de regarder. Alors, sur chaque don, sans doute pourrions-nous passer un dimanche complet, mais considérons-les seulement comme faisant partie du corps entier de Christ, comme faisant partie d'un ensemble. Et la première partie, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Encore, c'est l'unité. Puisque nous avons des dons différents, la diversité, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ensuite, et je vais m'arrêter là-dessus, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On va s'arrêter là-dessus, ok? Donc, le premier don et le plus grand don que Paul nomme ici, c'est quoi? La prophétie, hein? Et la prophétie, ça veut dire quoi? La prédication et l'enseignement inspiré en accord avec la foi, toujours en accord avec la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. L'analogie de la foi. Hein? Donc, ni la raison, mais la foi. Et généralement, il s'agit de l'œuvre du ministre spécialement doué de la parole, au moyen desquels l'Église est nourrie et au moyen duquel la foi est bâtie et renforcé dans l'Église. Donc, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église responsables pour ce don, pour la prophétie, pour l'enseignement, pour la prédication. Qui? Le pasteur principal, qui est doué pour enseigner la parole de Dieu, et aussi, autour de lui, on forme une équipe des anciens. Et des anciens doivent donc contrôler, entre guillemets, ce que le pasteur principal prêche. Parce que s'il est hors du cadre de la Bible, il faut le ramener. Okay? C'est une des choses les plus difficiles qu'on pourrait faire avec un pasteur principal, mais on doit assumer cette responsabilité en tant qu'ancien. Pourquoi? Parce que l'Église doit être et doit fonctionner analogiquement, selon la parole de Dieu. Alors, c'est important, les anciens. Donc, au moyen de ces sous-bergers, les anciens, Dieu construit et maintient son Église encore aujourd'hui. Premier don, activité, l'exerce. Qu'est-ce que est l'autre don? OK? Ensuite, Paul nomme de façon très spécifique quoi? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Non, encore une fois, pas pour être orgueilleux ou arrogant, mais dans la langue originale, le mot « diaconat » est utilisé. Et « diaconat », ça nous rappelle à quoi? Les diacres, ok. Donc, en effet, ce qui nous propose, sous le conduite du Saint-Esprit, qu'il y a deux catégories. D'abord, les anciens pour la parole de Dieu, c'est le ministère de la parole de Dieu, ok. Et l'autre, les ministères, les ministres, le diaconat, c'est pour les tables, le ministère du temple, des choses beaucoup plus pratiques à l'intérieur de l'Église. Et en dessous, ces deux parties, ces deux catégories, il y a des dons aussi qui s'en découlent. OK? Est-ce que vous comprenez un peu l'image qu'on peut pas projeter, mais utiliser pour avoir cette idée dans nos esprits aussi? Donc, Paul nomme de façon très, très spécifique diaconat, ce que celui qui est appelé au ministère, diaconion, s'attache à son ministère, diaconia, dans la langue originale. C'est-à-dire le don pour le ministère des affaires pratiques de l'Église, puisque Paul rajoute dans un esprit de service. C'est la même chose. À Actes 6, verset 1 jusqu'à 3. Il y a une autre référence. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a d'abord une analogie de la foi, très important, nous avons aussi quoi? Une analogie de l'amour. Et les deux doivent fonctionner à l'intérieur de l'Église. Pas l'un sans l'autre. On peut avoir beaucoup de doctrines très spécifiques, très rigides, mais si on enseigne le peuple de Dieu sans amour, ça ne sert à rien, finalement. Donc, il faut ce ministère de l'amour, selon l'analogie de l'amour. Et c'est l'analogie de l'amour, mais quel est le critère? Si le thermostat, c'est quoi le thermostat? On peut dire, le cœur de Dieu, dans son amour, c'est le thermostat pour notre Église. Est-ce que vous comprenez? Son amour est plein en Jésus-Christ et son cœur d'amour envers son peuple, c'est le thermostat de notre Église. Il faut que notre Église reflète cet amour aussi dans nos œuvres vis-à-vis les uns les autres. La foi, oui, mais aussi l'amour. Que le cœur du Seigneur se manifeste à travers nous. Vous comprenez? Donc, les deux doivent être présents. L'analogie de l'amour. Généralement, ce travail est accompli donc par les diacres. Mais cela montre en même temps que tout ministère dans l'Église devrait avoir comme but de servir dans l'amour, encore aujourd'hui. Donc, en même temps, il ne faut pas séparer les deux. Hein? Les gens qui servent l'Église pour enseigner doivent avoir aussi un esprit de service, n'est-ce pas? Plein d'amour. Et ceux qui sont là pour les choses pratiques de l'Église doivent aussi être instruits dans la parole de Dieu. Il ne faut pas les séparer, on peut les distinguer. Et à travers ces deux dont Dieu sert l'Église, à travers les gens. OK? Comme étant complètement donc contraire à l'arrogance et l'orgueil, hein? Le pouvoir. Alors, pas rapidement. Je me corrige toujours, sinon c'est toujours mes enfants ou ma femme. Mais c'est correct, c'est la parole de Dieu qui s'insère aussi dans notre vie. Nous sommes une seule chair. Alors, donc on a les deux catégories. Maintenant, il y a deux autres choses qu'il ajoute. C'est quoi? Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. OK. C'est une question à vous autres. OK? Donc, il y a à peu près trois ici, peut-être quatre, mais disons trois. Quatre, peut-être cinq. Est-ce que vous pouvez les mettre dans une de ces deux catégories qu'on vient de mentionner? Le prophétie et le diaconat. Lesquels vont se se trouver sur quelle catégorie? Mais premièrement, l'enseignement, c'est clair, non? L'enseignement, ça vient avec la prophétie, n'est-ce pas? Et j'ajouterai aussi exhortation. OK? Donc, sous donc, le premier don, la prophétie, il y a deux sous-dons, si vous voulez. Un, c'est l'enseignement et l'autre, c'est l'exhortation. Et l'enseignement, c'est comme une fonction moindre que la prophétie, pourtant un don particulier nécessaire au corps. Nous voyons cela en Actes 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, la première église chrétienne, en effet, les prophètes et les docteurs. Oh, c'est là, OK, c'est bon. Donc, ils sont nommés même avec leur tâche. Okay? Donc, il y avait toujours les prophètes et les docteurs. Cela a particulièrement à faire avec des enseignements donc évangéliques, les doctrines aussi. Mais on voit aussi exhorter. C'est ce que l'on fait principalement aux gens déjà convertis, construisant sur la fondation de la prédication et de l'enseignement. Donc, les exhortations pratiques viennent toujours à la fin des lettres de Paul, aussi après la prédication et l'enseignement. Pourtant, c'est très important, sans quoi le corps ne pourrait être servi ou exister. OK. Il faut que je m'explique. Éphésiens 1 jusqu'à 3 et le reste d'Éphésiens. C'est d'abord l'enseignement, ensuite les exhortations, divisées en deux. Parfaitement en deux. OK? Donc, je dis, l'enseignement vient avec l'exhortation et l'exhortation doit être inclus aussi dans l'enseignement. Parce que ce qu'un pasteur fait ici devant vous, c'est de ne pas juste enseigner, mais aussi exhorter pour une vie pratique, pour la vie quotidienne de la foi et de l'esprit. Alors, c'est important que les deux se trouvent dans la même catégorie. Le mot encore, c'est « paraclésie ». Ça nous rappelle à quoi? L'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas séparer la parole du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit de la parole. C'est l'application de la parole de Dieu pour notre vie quotidienne. C'est l'exhortation, en effet. C'est le pratique de notre vie quotidienne. Donc, si un sermon n'est pas pratique en même temps, c'est un sermon peut-être un peu problématique. OK? Donc, pour une image, l'enseignement sans l'exhortation est mort. Mort ou mort? L'enseignement sans l'exhortation est mort. L'exhortation sans enseignement est aveugle. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement sans l'exhortation est mort, c'est vrai. S'il n'y a pas d'amour, c'est mort. Mais l'exhortation sans enseignement est aveugle. Donc, parfois, il y a beaucoup d'exhortations dans la prédication, mais qu'est-ce qui manque? Le fondement, les racines dans les paroles de Dieu. Mais on peut avoir aussi beaucoup d'enseignements, mais sans exhortation. C'est plus au niveau intellectuel. Donc, encore une fois, l'enseignement sans l'exhortation est... L'exhortation sans enseignement est... OK, une autre fois. L'enseignement sans l'exhortation est... L'exhortation sans enseignement est... Très important. Les deux ensemble. Et finalement, le don de donner le don de diriger, présider. OK? Les deux autres dons se trouvent sous quoi? Sous quelle catégorie? Diaconat! Exactement. Diaconat. Donnez. Faites ceci avec simplicité. Ne donnez pas pour recevoir. Ne donnez pas pour glorifier dans votre nom, pour vous glorifier dans votre don. C'est-à-dire comme les riches envers les pauvres. Ce sont des tentations du diable aussi en donnant. Mais avec simplicité ou libéralité. Libéralité, ça veut dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avec les motivations pures hein, pour le corps de Christ. Et quatrièmement, Paul nomme le fait de présider ou de diriger. Aussi très important, diaconat, ministère, ensemble. Un autre passage qui mentionne le même verbe, c'est 1 Timothée 3, 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger, le même mot, sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Encore une fois, on se recule et on dit, c'est quoi le noyau? C'est toujours la famille. Après l'Église et après la société. Donc, Paul, il dit d'abord la famille et ceux qui dirigent leur famille comme il faut sont aussi des candidats potentiels pour le diaconat, pour les anciens. Très important. Donc, ce que vous faites dans votre propre vie, en arrière des rideaux, ça compte pour le Seigneur. Ça compte pour l'Église. C'est sérieux. C'est important. Toutefois, donc, il ne faut pas régner avec luxure ou à paresse ou dans les plaisirs, la gloire, l'honneur, la force et la tyrannie. On peut élaborer là-dessus. Hein? Il y a toutes sortes de comment diriger, mais bien diriger. Alors, c'est important. Mais régner avec diligence signifiant par là, ne soyez pas concernés, inquiets à propos de vous-même. Étant sans inquiétude à propos de vous-même, régnez ainsi. Régnez avec, pardon, et dans l'amour. Un principe, on peut élaborer là-dessus. L'amour ne se cherche pas. Vraiment important. Comment régner alors aussi dans l'amour? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des principes de base. J'espère que c'est devenu plus clair. Dernièrement, je termine avec. Paul termine cette section de la façon dont il a commencé, pour boucler la boucle, avec miséricorde et avec grâce. Pratique la miséricorde et le fasse avec joie. Hein? Donc, on a commencé avec la grâce, on termine avec la grâce, l'amour, avec miséricorde, avec grâce, qui le fasse avec joie. Où est la joie? La joie du Seigneur est ma force. Je vous implore, frères et sœurs, où est la joie de votre cœur? Comment ça se manifeste aussi à l'intérieur du corps de Christ? Où est-ce que plus d'amertume? D'amertume, c'est bien l'orgueil, arrogance. On veut notre propre position, etc., etc., pour le pouvoir. Mais où est la joie dans notre assemblée, qui est la force même de l'Église? Alors, encore une fois, souvenez-vous, mes amis, vous n'êtes pas dans l'Église à cause de vous-même. Vous n'êtes pas dans l'Église à cause de vous-même, parce que c'est par la grâce. Vous n'êtes pas dans l'Église par vous-même, seul, nous sommes tous un, avec des dons différents. Un membre retiré va mourir. Et vous n'êtes pas dans l'Église pour vous-même. Diaconat, l'amour. OK, encore une fois, vous n'êtes pas dans l'Église à cause de vous-même. Vous n'êtes pas dans l'Église par vous-même. Nous sommes tous ensemble. Et vous n'êtes pas dans l'Église pour vous-même. Ça, c'est une autre chose. Le monde est là pour eux-mêmes. L'argent, pouvoir. L'Église est autre chose. Donc, Paul aussi termine cette section avec, amis, c'est uniquement la grâce et la grâce seule. Donc, puisque nous vivons par la grâce, démontrer de la miséricorde, et cela d'un cœur joyeux, puisque vous vous savez racheter à un prix éternel, puisque vous vous savez délivrer par un tel sauveur aimante. Frères et sœurs, que le corps, le cœur de Christ, le cœur de Dieu se reflète aussi au milieu de nous. Que le cœur d'amour de notre Seigneur soit le thermostat de l'assemblée ici à la Bible parle, avec la joie qui vient avec, dans l'amour. Donc réjouissez-vous en qui vous êtes, ensemble et tout ce que vous faites, selon la foi, la grâce et les dons que Dieu vous a donnés. Amen. On va prier. Seigneur, c'est sûr que nous manquons toujours. Et même quand je prêche contre moi-même. Je suis aussi un homme de la chair qui veut le pouvoir, le statut. Et Seigneur, nous sommes tous tentés de cette manière. Ce n'est pas une excuse, Seigneur, parce que tu nous as rachetés d'un prix qu'on peut même imaginer. C'est un prix qui coule de l'amour, qui coule de ta grâce. Inimaginable. Alors, Seigneur, vraiment, nous t'implorons ensemble de que ton cœur d'amour se reflète aussi dans notre assemblée pour qu'on puisse servir les uns les autres, selon l'ordre que tu nous as montré aussi aujourd'hui. Alors, sois avec chacun de nous, peut-être dans les difficultés, qui vivent une vie très difficile dans leur famille ou même dans l'Église, Seigneur. Mais accorde-nous ta grâce pour surmonter nos tendances de la chair, pour ne pas être arrogant, de ne pas être orgueilleux, mais de se plier devant toi dans l'humilité et de vivre dans la foi et dans l'amour vers toi et vers les uns. Les autres. Donc aussi, Seigneur, nous te prions que tu bénis l'offrande qu'on t'offre. C'est l'argent et c'est le moyen par lequel aussi l'Église fonctionne pour te servir d'abord et surtout. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.